Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Nous allons entendre le tout dernier cours donné au Collège de France par le professeur Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Ce qu'il aura apporté tout au long de ses travaux, que nous avons eu le bonheur d'entendre dans l'éloge du savoir, renouvelle notre vision et notre connaissance de la Grèce antique jusqu'au IIe siècle de notre ère. Historien très original, Denis Knopfler nous a permis de comprendre en quoi l'histoire de l'Antiquité, qui nous paraît si souvent obsolète, est au contraire de toute première nécessité pour comprendre notre époque et l'éclairer d'un regard critique. Professeur savant et audacieux, sa dernière année de cours donne la mesure de sa hardiesse intellectuelle. Car un grand historien est d'abord un esprit libre qui ose s'aventurer dans des savoirs encore non défrichés et explore des hypothèses jusque-là inédites. Cette année, par exemple, il s'est confronté au superbe roman de Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien. Peu d'érudits sont assez cultivés, ouverts, et pour tout dire, peu sont assez instruits, pour savoir qu'un romancier est un interlocuteur aussi valable, sinon plus, que n'importe quel professeur. Avec Marguerite Yourcenar, Denis Knopfler redonne vie à l'empereur romain le plus lettré et philhellène qui fut. Grâce à leur collaboration, Adrien est fait de chair, de sang, d'intelligence, mais aussi de curiosité savante, d'amour et de chagrin. Très beau portrait d'homme politique que celui de l'empereur Adrien, qu'on redécouvre grâce à ses mises à jour épigraphiques. Écoutez.
Très chers auditeurs et auditrices, des bons et des mauvais jours, des bons cours et parfois des moins bons, c'est à vous d'abord que je songe, en entamant cette ultime leçon, et je vous exprime ici ma durable reconnaissance pour votre fidélité. Mais c'est avec joie aussi que je vous salue, vous tous et vous toutes, dont la présence singulière, unique, ou en tout cas épisodique, m'honore et me touche plus que je ne saurais dire. Sur ce point, vous avez pris le risque de devoir monter dans un train en marche. Sur ce point, au moins, je puis vous rassurer, le convoi qui roulait jusqu'ici à vive allure n'avance plus très vite. Il est même sur le point de s'arrêter en gare de Tibur, Tivoli, là où l'infatigable voyageur a préparé de longue date une semi-retraite dans sa somptueuse résidence de campagne. Car Adrien, maintenant, est rentré d'une autre campagne, celle de Judée, cette guerre atroce qu'il a dû conduire pour mater l'insurrection juive qui avait éclaté en 132, s'était prolongée jusqu'en 136, contraignant le prince à prendre des mesures stratégiques qui eurent des répercussions jusqu'à l'autre extrémité de l'Empire. Certes, de la Colonia à Aelia Capitolina, autrement dit Jérusalem, Adrien était revenu en vainqueur, comme suffirait à le montrer l'acclamation qui figure à partir de cette date dans sa titulature officielle, le seul titre de victoire qu'il ait jamais accepté de recevoir de ses troupes et du Sénat, depuis du moins la salutation impériale de l'année 117 en Syrie à la mort de Trajan. Mais cette victoire, il l'a célébrée avec retenue. Il n'en a pas tiré de slogan monétaire proclamant la Judea Capta. Il n'a pas voulu non plus être appelé Judaicus, alors que son prédécesseur, on le sait, avait le goût des épithètes belliqueuses, Germanicus, Dacicus, Particus. Tout au contraire, il souhaita que le nom même de Judée disparût de la surface de la terre. La petite province s'appellerait désormais Syria Palestina. Il se contenta donc d'être appelé Imperator pour la seconde fois, Autocrator to Deuteron, comme l'attestent bien des inscriptions grecques et latines, et comme cela apparaît aussi dans les pauvres vestiges d'un arc de triomphe que les archéologues israéliens ont mis au jour il y a une quinzaine d'années à Tel Shalem, en Galilée, et qu'avec la collaboration de l'épigraphiste allemand Werner Eck, ils ont publié sereinement. C'est que tout le monde devrait être convaincu que l'expéditio judaica fut tout autre chose dans l'esprit du prince qu'une guerre de conquête. La nécessité pour le pouvoir d'étouffer une sécession qui mettait en péril la cohésion politique de l'Orient gréco-romain. Dans Mémoire d'Adrien, Marguerite Yourcenar montre l'empereur vivement affecté dès le début par cette révolte et la répression qu'elle entraînait nécessairement. Si, écrit le mémorialiste, 16 ans du règne d'un empereur passionnément pacifique aboutissaient à la campagne de Palestine, les chances de paix du monde s'avéraient médiocres dans l'avenir. Et d'ajouter un peu plus loin, je voyais revenir les codes farouches, les dieux implacables, le despotisme incontrôlé des princes barbares, le monde morcelé en états ennemis, éternellement en proie à l'insécurité. Quelle que soit la part d'authenticité des réflexions prêté à l'empereur sexagénaire, on ne saurait nier qu'Adrien ait travaillé avec constance à la paix de l'Empire, voyageant non pour annexer de nouveaux pays, mais pour conclure des traités avec les ennemis héréditaires, ainsi les Parthes, en 123, pour inspecter aux frontières les camps légionnaires, pour y établir parfois ou y élever des ouvrages de défense, comme le bien célèbre mur de la Britannia, au nord de la ville d'York, pour contrôler par lui-même l'état des routes, y garantir les droits des riverains, en réprimant les abus en matière de veiculatio, de transport des personnes et des biens, et surtout pour construire, fonder, refonder, embellir des centaines de villes, les doter d'aqueducs, de temples, de portiques, de théâtre, pour instituer de nouveaux concours et en réformer d'anciens, en veillant sur les finances des cités naturellement portées aux entreprises dispendieuses. D'autres princes, certes, ont été de grands bienfaiteurs. Antonin le Pieux, par exemple, dont on ne compte plus les largesses attestées par les auteurs et par les inscriptions. Mais Adrien seul s'est soucié de parcourir le monde pour observer la réalité des choses. Environ 12 ans de voyage pour 21 ans de gouvernement, une proportion sans doute inégalée dans l'histoire, mis à part le cas peut-être de sa gracieuse majesté la reine Élisabeth d'Angleterre. De fait, une part non négligeable du cours qui s'achève a été consacré à établir l'itinéraire des voyages et leur chronologie. Tâche malaisée, mais où le progrès de la documentation permet de progresser notablement. Nous avons accompagné le prince dans ses déplacements le long des grands fleuves, ainsi jusqu'au confluent de l'Inn et du Danube avec Arien de Nicomédie. Nous avons partagé son chagrin en Provence, de devoir y abandonner Boristen, sa légendaire monture, dont il fit dresser à Apt l'épitaphe versifiée. Nous avons transpiré avec lui le 1er juillet 128, quand il dut passer en revue tous les corps de troupes de la 3e Légion Auguste stationnés à Lambèse avant de les exhorter, en un discours conservé sur la pierre. À l'inverse, en 129, nous avons éprouvé avec lui la morsure du froid qu'il devait ressentir encore en édictant le texte tout récemment découvert en Asie mineure, où il envisage l'éventualité que la neige pourrait recouvrir le pays jusqu'à faire disparaître le tracé des routes. Nous l'avons suivi dans ses chasses aussi, en Bithynie, en Mysie, et encore en Phrygie, sur la tombe d'Alcibiade l'Athénien. Nous avons essayé d'imaginer ces traversées sur une luxueuse galère qu'escortait toujours une flottille de navires de guerre et de vaisseaux marchands. Et, bien sûr, il y eut les séjours à Athènes, et aussi le voyage sur le Nil avec la noyade en octobre 130 du bel adolescent de Bithynion, cet Antinous promu à la plus extraordinaire des renommées. Mais tout est allé si vite, en dépit de cette assez méthodique tournée de l'Empire en 12 étapes, que nous n'avons pas même pu l'accompagner partout. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre, serait-on tenté de lui dire moliéresquement. Je voudrais aujourd'hui réparer au moins une omission, pas tout à fait involontaire, en évoquant le grand voyage qui, en 129-130, mena l'empereur d'Éphèse à Alexandrie, via Antioche et Jérusalem. On n'avait rien dit de son passage à Palmyre, aux confins de l'Empire. Deux textes, au moins, pouvaient être allégués depuis longtemps en faveur d'un détour fait par Adrien vers la grande cité caravanière. Le lexicographe Étienne de Byzance, d'une part, nous informait que les gens de Palmyre avaient pris le nom de Adrianopolitae à la suite d'une refondation de leur ville par Adrien. D'autre part, il ressortait d'une inscription bilingue du temple de Baal Shamin à Palmyre même que le divin empereur y avait fait une épidémie, je veux dire un séjour épidémia. Mais à quel moment de ces pérégrinations, Marguerite Yourcenar s'est prudemment abstenue de l'indiquer, se contentant tout à la fin de l'ouvrage d'évoquer le vieil Adrien travaillant encore dans sa villa de Tibur sur quelques dossiers en souffrance. « Je viens d'achever la refonte du code commercial de Palmyre », écrit le mémorialiste. « Tout y est prévu, le tarif des prostituées et l'octroi des caravanes. » Il s'agit, on le sait, d'une très importante inscription transportée, voici un siècle, à Saint-Pétersbourg, et dont la date est très précisément fixée au 18 avril 137. Par une sorte de coïncidence, c'est au lendemain de la parution des mémoires que le problème chronologique du passage de l'empereur à Palmyre fut réglé d'un seul coup, confié à une mission helvétique par l'inoubliable Henri Séric. La fouille du temple de Baal Shamin permit en effet de retrouver l'inscription adrianique. Une archéologue genevoise, ancien membre étranger de l'école française d'Athènes, Christiane Dunan, put alors déterminer de manière assurée dans le texte en palmyrénien la date du document, mettant aussi hors de doute que l'empereur avait séjourné à Palmyre au printemps 130, peu avant la mort d'Antinous, qui l'accompagnait à coup sûr au moins depuis 129. Nous devons maintenant, sans plus tarder, aller à la rencontre de l'empereur, tel qu'il était en cette morose année 136, à son retour définitif en Italie, quand sa santé commençait à se dégrader sérieusement. Malgré malade, Adrien l'était déjà, sans doute, depuis un certain temps. Dès avant la fin de la guerre de Judée, le bruit avait couru en Orient qu'il était victime d'une maladie de la peau, l'Epraé morbus, où la tradition juive a pu voir, bien entendu, un châtiment du ciel. Mais il souffrait surtout de diverses maladies, sans doute d'artériosclérose ou d'hydropysie, comme disait l'ancienne médecine, avec de fréquentes hémorragies. Ses traits s'étaient épaissis. Frappant à cet égard est le portrait de bronze doré conservé autrefois à Alexandrie, montrant un visage un peu joufflu ou boursouflé, et qui contraste nettement avec celui beaucoup plus volontaire et nerveux. Pourtant, les deux portraits sont pratiquement contemporains. On se souvient peut-être que le récit des mémoires s'ouvre par le compte-rendu d'une auscultation minutieuse à laquelle le médecin Hermogène, de retour d'Asie mineure, aurait soumis le prince peu de temps avant sa mort. Nous avons vu que, mentionné par l'historien Dion Cassius, cet Hermogène ne fait qu'un avec le personnage homonyme, qualifié de Archiatros Sébastou, grand médecin de l'empereur, dont l'épitaphe romaine a été retrouvée naguère à Milan. Et ce praticien pourrait, selon nous, devoir être identifié aussi à l'Archiatros et Philosophos Hermogenes, que vient de faire connaître une inscription mise au jour à Rhodiapolis en Lycie. La santé d'Adrien était ainsi entre les mains d'un homme de l'art, parmi les plus qualifié de l'époque. J'ai néanmoins jugé nécessaire d'obtenir une contre-expertise de la part d'un de ses modernes confrères, ou plutôt consoeurs, médecin et philosophe, comme lui, chose point si fréquente, notre chère collègue et amie Anne Fagolargeau. Pardon. Cela ne laisse pas beaucoup d'espoir, m'a-t-elle confié en se résignant à rompre pour une fois le secret médical. L'histoire, on le sait, lui donne raison, puisque l'empereur ne devait pas survivre plus de 18 mois à son retour de Judée dans l'hiver 135-136. Alors commence pour lui une période bien douloureuse, entrecoupée vers la fin, selon nos sources les plus autorisées, de plusieurs tentatives de suicide. C'est dans ce contexte dramatique qu'il faut placer la décision prise par l'empereur dès l'été 136, pour assurer sa succession. Deux affaires importantes m'attendaient à Rome, écrit le mémorialiste. L'une était le choix de mon successeur, qui intéressait tout l'Empire, l'autre était ma mort et ne concernait que moi. Le règlement successoral d'Adrien a fait couler passablement d'encre, non pas qu'il ait manqué de clarté, mais parce que les intentions profondes de l'empereur échappaient largement. N'ayant pas eu d'enfant de son épouse, l'impératrice Sabine, Adrien était contraint de distinguer au sein de l'ordre sénatorial, et de préférence parmi ses proches, quelqu'un qui, par le biais de l'adoption privée, serait juridiquement habilité, politiquement apte à recueillir le pouvoir impérial, sous réserve de l'investiture par le Sénat. Contre le gré de tous, invitis omnibus, dit l'histoire auguste, Adrien désigna un personnage qui, certes, ne bénéficiait pas d'une réputation sans tache, mais qui avait le bon âge, 35 ans, et appartenait à l'élite sociale, Lucius Caeonius Commodus. Au surplus, il se trouvait être alors, et pas tout à fait par hasard, l'un des deux consuls en fonction. Une fois adopté, donc, il ne garda de ses anciens noms que le premier, Lucius, s'appelant désormais Lucius Aelius César, Caesar, puisqu'il était agrégé à la gens Aelia, celle d'Adrien, et qu'il partageait avec l'empereur le titre de César, mais pas encore celui d'Auguste, l'empereur n'étant investi donc à ce moment-là qu'une d'une partie des pouvoirs impériaux, la tribunia potestas. Relevons au passage qu'il en résultait une situation bien différente de celle qui avait prévalu à la fin du règne de Trajan, puisque celui-ci n'avait adopté Adrien que sur son lit de mort, ou même après son décès, si l'on peut dire, grâce à la présence d'esprit de l'excellente impératrice Plotine. Mais cela est une autre histoire dont il a été question précédemment. Surtout, le dossier, la décision d'Adrien Auguste de partager le pouvoir pour un temps indéterminé avec un successeur désigné portant le titre de César était une innovation extraordinairement importante pour l'avenir, puisque la chose devait se reproduire souvent jusqu'à devenir un nouveau mode de gouvernement avec l'institution, on le sait, de la tétrarchie aux alentours de 300. C'est pourquoi il serait bien intéressant de savoir quelle fut la raison du choix d'Adrien en faveur de ce Caeonius Commodus. Les historiens, assurément, ont le droit de proclamer leur ignorance, ou de moins d'avouer leur incertitude. Marguerite Yourcenar, elle, était bien obligée de prendre un parti tranché, puisqu'elle ne pouvait pas laisser l'empereur écrire qu'il avait choisi son successeur sur un coup de tête ou au gré de sa fantaisie. Qu'a-t-elle fait alors? Elle a retenu deux informations fournies par l'histoire Auguste. Cette composition tardive où le meilleur côtoie souvent le pire. La première est qu'Adrien, effectivement, hésita longtemps entre plusieurs candidats honorables pour les écarter finalement tous sous divers prétextes en allant jusqu'à les pousser à la mort. La seconde information est que si le choix de l'empereur se porta sur Commodus, c'est que sa beauté lui était une recommandation, lit-on, pour l'adopter, sibi forma commendatum adoptare constituit. Mais attention, Yourcenar n'allait pas tomber dans le piège grossier d'une adoption fondée sur la pulsion d'un vieillard libidineux. D'une part, elle a voulu donner une épaisseur temporelle à la relation entre Adrien et Commodus, la faisant commencer dès le début du Principat, avant même que l'empereur ne s'entichât d'Antinous. D'autre part, et surtout, elle a fait du successeur désigné, un homme intelligent, éblouissant même, bourré de talent, porté à la débauche, assurément, mais pas infiniment plus, somme toute, qu'Adrien lui-même. Bref, elle a su rendre crédible le choix de l'empereur en dépit de deux sérieuses handicaps. Premièrement, le nouveau César n'avait qu'une faible expérience militaire, ce qui pouvait être rédhibitoire aux yeux du Sénat et d'Adrien lui-même, brillant officier dès son plus jeune âge. Deuxièmement, Aelius était phtisique. Qu'à cela ne tint, en 137, l'empereur l'envoya avec le titre de proconsul se refaire les poumons, mais les armes à la main, dans les deux provinces de Pannonie, sur la frontière du Danube. Mais Aelius, le pauvre homme, en revint plus souffreteux que jamais, et il trépassait à Rome le 1er janvier 138. Pourquoi donc alors parler de cet héritier présomptif qui ne devait jamais accéder à l'Empire? C'est qu'Adrien voulut à toute force prolonger l'existence de Caeonius Commodus à travers le fils mineur que laissait celui-ci, en obligeant deux mois plus tard le nouvel héritier désigné, le futur Antonin le Pieux, à adopter ce garçonnet appelé Lucius Verus, en même temps qu'un jeune homme, beaucoup plus prometteur, et déjà âgé, lui, de 17 ans, le futur Marc Aurèle. Il devait du reste régner conjointement pendant quelques années, ce qu'évoquent bien ces deux moulages offerts il y a peu au Musée national romain par la fondation du Collège de France à l'initiative de notre ami John Scheid. Mais comment rendre compte de cet imbroglio successoral? Une solution simple, lumineuse, a été offerte voici plus d'un demi-siècle par Jérôme Carcoupino dans un article paru vers la fin de 1949, la date a son importance, dans la revue des études anciennes. Si Adrien, en 136, au lendemain de la mort de l'impératrice, a porté son choix sur Caeonius Commodus, c'est que ce personnage était en réalité son fils adultérin, né en 101 d'une liaison que le prince entretenait aussitôt après son mariage avec une matrone romaine de la meilleure souche. Voilà donc pourquoi, faisant taire toutes les oppositions, l'empereur adopta Commodus, puis fit adopter par Antonin le rejeton de ce bâtard, qui était son petit-fils à lui, Adrien. Malgré le léger parfum de scandale qui s'en dégage, cette conclusion ne doit pas être considérée comme anecdotique. Si elle est vraie, comme je suis personnellement porté à le croire, elle achève de prouver que le régime impérial reste héréditaire sous la façade d'un principe d'adoption rationnel. Je n'ignore pas, certes, que la thèse de Carcopino a rencontré de la résistance. Ainsi, Marguerite Yourcenar elle-même la repousse sans ménagement dans la note dont elle a assorti à partir de 1958 la publication de son livre, mais en se bornant à écrire, je cite, que les hypothèses de Carcopino ont été écartées au profit d'une interprétation littérale des textes. Affirmation qui laisse un peu songeur quiconque a une certaine familiarité avec les sources historiographiques du règne d'Adrien. Sans doute, l'auteur des mémoires n'aimait-elle pas trop Carcopino, qui avait été, on le sait, secrétaire d'État pour l'éducation sous le régime de Vichy. Mais la vraie raison de son rejet, c'est que tout simplement, elle ne pouvait plus faire marche arrière, à supposer qu'elle eût été en mesure de prendre connaissance de l'article dès 1950. Très différente fut la réaction ou la position du grand savant franco-allemand, qui était Hans-Georg Pflaum, qui, dans un mémoire de 1964, s'efforça de trouver une explication froide, jusqu'à être glaciale, du choix d'Adrien. En y voyant le résultat d'un calcul politique pour se ménager une fraction au moins du Sénat romain. Article qui témoigne d'une connaissance absolument ébouriffante de ce milieu à travers une foule d'inscriptions, mais qui n'en aboutit pas moins à une conclusion paradoxale, d'ailleurs soulignée par Carcopino lui-même dans une réfutation immédiate en 1965, puisque, selon Pflaum, Adrien aurait cherché et trouvé en Caeonius Commodus un homme dont il prévoyait la mort toute prochaine, ce qui devait rendre possible l'avènement rapide du jeune Marc Aurèle. Quant au choix fait d'Antonin, dans la précipitation qu'imposait à Adrien le progrès de sa maladie, il aurait été, à en croire le même auteur, assez catastrophique pour l'avenir de l'Empire, jugement qui lui aussi semble fort discutable, ou du moins très excessif, d'autres l'ont dit avant moi. On comprend ainsi que la thèse exposée avec tant de brio par Carcopino garde toute sa force de séduction, même si elle ne se laisse pas démontrer. La ressemblance physique entre Adrien et Lucius César étant assez troublante, assurément, mais non génétiquement vérifiée. Ce qui nous importe aujourd'hui, toutefois, c'est de pouvoir saisir à travers ces péripéties l'état d'esprit de l'empereur au début de l'an 138. Après qu'il eut annoncé devant le Sénat, le 25 février 138, sa décision d'adopter Antonin, mesure propre à rassurer les sénateurs, puisque cet homme expérimenté, pondéré, honnête, connaissant au surplus assez bien le monde grec, jouissait d'une large confiance. Adrien, pour autant, n'abdiquait pas le pouvoir, mais il laissait désormais à son successeur le soin de régler à Rome même les affaires courantes, tandis qu'il se retirait, lui, dans sa villa de Tibur, avant de devoir la quitter pour la Campanie. Restant néanmoins informé de tout, jour après jour, mais ne s'occupant plus que des questions qui lui tenait véritablement à cœur. C'est dans cette période que vient s'insérer le document dont je voudrais vous entretenir dans le temps qui me reste. Il ne s'agit pas d'une inscription inédite, ni même tout à fait nouvelle, mais son caractère exceptionnel, sa présence à Paris, le lien personnel que j'ai eu la chance d'avoir avec elle, si l'on peut dire les choses ainsi, tout m'incite à y revenir. Le document, c'est celui que porte une plaque de bronze de grande dimension parvenue au musée du Louvre par l'entremise d'un collectionneur français et de l'Association des Amis du Louvre que préside notre éminent collègue Marc Fumaroli de l'Académie française. Le texte en a été connu de quelques chercheurs à partir de 1997 environ, puis une photographie en a été publiée en 2000 dans la revue du Louvre par Alain Pasquier, alors conservateur en chef des antiquités grecques, étrusques et romaines. Je puis moi-même en faire état dans ma leçon inaugurale de 2004. 2 ans plus tard, en juin 2006, l'honneur nous échut à mon vieil ami Alain et à moi-même de la présenter devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres à l'invite du regretté Jean Leclan, pour qui j'ai en ce jour une pensée reconnaissante, de même que je salue aussi son successeur dans les fonctions de secrétaire perpétuel, notre très cher collègue Michel Zinc, dont la présence en un tel jour me touche particulièrement. Il me fut également possible, la même année, d'éditer et de commenter l'inscription dans la Revue des études grecques, sur proposition, cette fois, de mon confrère Jacques Jouanna. Me faut-il pas lui prouver, au surplus, que je n'ai nullement cessé de songer à la seconde partie de mon commentaire, qu'il me réclame d'ailleurs chaque vendredi, ou presque, des séances académiques. Sur le support de l'inscription, cette plaque de bronze gravée à la cire perdue, je n'ai rien à ajouter à la description très précise de l'ancien conservateur, et c'est à ces judicieuses observations que l'on se reportera également pour le problème que pose le petit buste d'Adrien, inséré à l'époque moderne, sans doute seulement, dans le fronton. En 2006, j'avais fait remarquer, mais en tremblant d'être contredit par quelques sourcilleux romanistes, que c'était la seule lettre impériale gravée sur un tel support. Plusieurs éminents spécialistes des choses romaines, en France comme à l'étranger, ont depuis lors, je sois loué, expressément entériné mon opinion. Il en faut donc tirer 2 conclusions. La première, évidente, est que l'initiative de cette gravure hors du commun est venue des destinataires de la lettre, non pas de la chancellerie impériale. La seconde, plus subtile, plus aventureuse aussi peut-être, est que ces gens-là, qui ne devaient pas rouler sur l'or, ni même sur le bronze, avaient sans doute un motif très sérieux d'être infiniment reconnaissants à l'empereur de leur avoir adressé cette belle épître et octroyé ce qu'elle laissait espérer. Dans le document lui-même, une chose m'avait d'emblée fasciné. Je n'étais pas le seul, bien entendu, à ressentir une espèce d'émotion en constatant que la lettre était datée de la 22e puissance tribunicienne d'Adrien, c'est-à-dire de sa dernière année de règne, celle que l'on doit faire commencer, de l'avis des meilleurs connaisseurs, du 10 décembre 137, ou par là autour, moment où l'empereur était solennellement réinvesti dans le pouvoir annuel des anciens tribuns de la plèbe. Cette 22e année, on le sait, fut interrompue en son milieu par la mort d'Adrien le 10 juillet 138, à Bailly. Or, il n'y avait au moment de la publication du document en 2006 aucune autre lettre, rescrite et dite, de cet empereur qui pût être attribuée aux 6 derniers mois de sa vie, car il faut mettre tout à fait à part la lettre d'Adrien adressée à Antonin, qui nous a été conservée par un papyrus du Fayoum. En effet, outre qu'il s'agit d'une lettre de caractère privé, l'authenticité même de ce morceau est fortement sujette à caution. C'est sans doute un exercice d'école, au demeurant fort réussi. À l'inverse, ce sont des documents purement administratifs que les diplômes militaires par lesquels l'empereur octroyait la citoyenneté romaine aux vétérans des troupes auxiliaires. Donc, pour l'activité personnelle d'Adrien, il n'y avait rien à tirer de l'existence de diplômes datant du premier semestre de l'année 138. Par ailleurs, l'indication fatidique de la 22e puissance tribunicienne se trouvait, et pour cause, dans l'épitaphe de l'empereur, sur le mur extérieur de son mausolée du Libre, le fameux château Saint-Ange. Cette épitaphe n'a évidemment rien à voir avec la plaque que l'on a cru devoir afficher aujourd'hui à l'entrée du monument et qui ne fait que reproduire le petit poème célèbre composé selon l'histoire auguste par le prince moribond Animula Vagula Blandula Amelette Vaguelette Tendrelette, etc. Non, je veux parler de la véritable épitaphe disparue, certes aujourd'hui, mais copiée dès le XVIe siècle par plusieurs érudits. Celle qu'Antonin avait fait graver pour ses parents adoptifs, Marguerite Jursenard, en a senti toute la solennité, puisqu'elle a tenu à reproduire ce document à la dernière page de Mémoire d'Adrien, dans une version française, mais imitant le style épigraphique. Rien n'égale la beauté d'une inscription latine, votive ou funéraire, fait-elle dire à l'empereur. Ces quelques mots gravés sur la pierre résument avec une majesté impersonnelle tout ce que le monde a besoin de savoir de nous. C'est en latin que j'ai administré l'Empire. Mon épitaphe sera inscrite en latin, mais c'est en grec que j'aurai pensé et vécu. Et jusqu'à la fin, peut-on ajouter maintenant, puisque le document conservé au Louvre porte un texte rédigé dans le meilleur grec. Mais cette lettre est-elle toujours la dernière que l'on connaisse actuellement de lui ? Il en existe, en effet, aujourd'hui, une autre qui, de prime abord, pourrait prétendre à ce beau titre. En 2009, en effet, notre collègue de Munich, Helmut Müller, que plusieurs d'entre vous connaissent puisqu'il a été très récemment l'invité du collège, a réédité avec de nouveaux fragments une lettre aux Pergaméniens que l'on croyait être du règne d'Antonin et qui émane en réalité d'Adrien. Or, elle date à coup sûr, comme l'a établi cet historien, de la 22e puissance tribunicienne, même si ce chiffre a dû être restitué dans une lacune du texte. Son intérêt pour nous est de confirmer qu'à cette date, quelques jours avant la mort du premier héritier désigné, Aelius César, et à 2 mois de l'adoption du second, c'est-à-dire Antonin, Adrien, tout diminué qu'il fût physiquement, était encore en pleine possession de ses moyens intellectuels. Car, on le voit, refuser poliment, mais fermement, l'édification d'un temple du culte impérial dans cette métropole de l'Asie. « Puisque vous voulez m'honorer d'une statue de culte, dit-il aux Pergaméniens, mettez-la donc aux côtés de celle de Trajan, car les temples de mon père me font bien davantage plaisir, vous le savez, que les miens propres. » Il est dès lors plausible d'admettre, pour la plaque du Louvre, une date un peu plus avancée dans la 22e puissance tribunicienne, la fin de l'hiver, ou mieux, sans doute, le printemps 138. Notre inscription reste ainsi, jusqu'à nouvel avis, la dernière lettre publique de l'empereur Adrien. Elle s'adresse en tout cas à une cité infiniment moins prestigieuse que l'illustre Pergame et ne concerne pas une affaire qu'il aurait été urgent de régler, comme l'était la construction d'un temple de statut provincial. Car les destinataires de la lettre sont les habitants d'une bourgade perdue dans les montagnes de la vieille Grèce, de la province d'Achaïe, Narica ou Narix, en Locride occidentale. Une situation qui domine les routes des invasions, pas très loin de ces Thermopyles dont le nom s'est conservé dans nos mémoires. D'ailleurs, pendant longtemps, on ne sut même pas la localiser exactement. C'est en 1920 seulement que la découverte d'une base de statues près du village de Renghini règle la question. L'inscription mentionnait en effet la cité des Narukeioi, bien lisible, il y en aurait un empereur ou non amputé, mais qui était qualifié de Soter Caictistes Oikoumenes, sauveur et fondateur du monde, ou du monde habité. Un titre porté précisément par l'empereur Hadrien, comme l'avait noté l'éditeur, l'épigraphiste grec Nikolaos Papadakis. Comment douter que le bronze du Louvre provienne de ce site archéologique et plus précisément même des ruines aujourd'hui invisibles du petit temple qui abritait la statue impériale? La plaque avait dû être fixée sur une paroi intérieure, échappant miraculeusement ensuite à la convoitise des hommes. Elle a mis du temps à être exhumée, au hasard peut-être d'un coup de pioche ou plus probablement repéré par un détecteur de métaux. Mais pourquoi donc les Narichéens avaient-ils conçu tant de gratitude envers Hadrien au point de lui consacrer un petit temple? La lettre nous le laisse deviner pour une part, même si dans les dernières lignes du document, dont la disparition accidentelle et probablement définitive, devait figurer une décision plus concrète d'ordre financier, susceptible de justifier mieux encore leur reconnaissance. De toute évidence, comme c'est le cas le plus souvent dans la correspondance impériale, Hadrien répond à une requête de la cité. Il reprend donc, vraisemblablement, une partie de l'argumentaire, dirait-on aujourd'hui, développé par les ambassadeurs lors de l'audience qu'il dut leur accorder dans sa résidence du Latium, où il disposait, à coup sûr, d'une belle bibliothèque. Mais Hadrien pouvait-il connaître Narica autrement que par les mentions littéraires dont elle avait fait l'objet et qu'il sut retrouver en déroulant quelques volumina? Sans doute ne l'avait-il pas honoré d'une visite personnelle, encore que d'un tel voyageur, on puisse tout supposer. Mais il avait dû au moins entendre parler de cette petite cité quand, au printemps 125, venant d'Athènes, traversant la baie aussi pour se rendre à Delphes, il fut amené à faire un crochet, comme nous l'avions suggéré dans une précédente leçon, par le sud-est de la Phocide, en y déployant une activité édélitaire dont Pausanias, le périégète, a conservé le souvenir au livre 10 de sa description de la Grèce. Et cela au profit de deux petites villes, Iampolis et Abaï, qui n'étaient finalement pas très différentes de notre Narica, à la fois par leur situation et leur taille. De là, l'empereur dut gagner aisément Oponte, la cité principale depuis toujours, des Locriens orientaux. Il se pourrait qu'il ait rencontré les députés des autres cités locriennes, dont justement Narica, à une quarantaine de kilomètres par la route, d'Atalanti, site désormais assuré d'Oponte. Quoi qu'il en soit de ce point, on est en droit de créditer Hadrien d'une certaine familiarité avec les réalités qui constituaient le cadre géographique et surtout politique de la cité des Narichéens. Il le prouve d'emblée dans la lettre en citant les trois organismes supranationaux, si l'on peut utiliser ce terme, auxquels ces gens-là adhéraient et contribuaient: l'Amphictyonie, la Confédération des cités béotiennes et enfin le Panhellénion. Je ne m'attarderai guère sur cette partie de la lettre, si intéressante soit-elle, car j'en ai suffisamment traité ailleurs. Bornons-nous à rappeler ici que si les Narichéens furent dès l'origine membres de l'Amphictyonie Pyléo-Delphique, puisque leur cité se trouvait placée au centre de cette association de peuples ethnés assurant de siècle en siècle la gestion commune des sanctuaires de Delphes et d'Antella, ils n'en étaient membres qu'au titre de Locriens, avec un seul représentant pour le tronc oriental de cette ethnos. Il devait donc être bien rare que le Hiéromnémon Locrien à Delphes fut un citoyen de Narica. L'ensemble des cités réunies sous le nom de Koinon Boyoton formait une entité politico-religieuse plus restreinte, mais plus cohérente aussi. C'est à mon sens l'un des apports les plus importants de l'inscription que d'avoir montré l'extension prise par l'ancien État fédéral béotien à l'époque antonine. Et sans doute n'a-t-on pas pris encore toute la mesure aujourd'hui de cette révélation qui me paraît impliquer que le koinon béotien, tout comme le koinon achéen dans la partie péloponnésienne de la province d'Achaïe, englobait plusieurs groupements ethniques avec un sanctuaire commun qui devait être en l'occurrence l'Itonion de Coronée, au cœur de la Béotie, à proximité des rivières, dont l'empereur lui-même, à partir de 125, s'était soucié de réguler le cours jusqu'au lac Copaïs. Mais j'en ai déjà trop dit. Passons au troisième des organismes cités dans la lettre, cette création incontestablement adrianique qu'est le célèbre Panhellénion d'Athènes, institution de caractère avant tout religieux et idéologique, dont il a été plus d'une fois question dans les leçons précédentes. On voit aujourd'hui qu'une cité aussi modeste que Narica y avait sa place, attitrée, étant habilitée à envoyer deux dignitaires, qualifiés l'un de Panhellène, l'autre de Théécolos, lors des cérémonies qui se célébraient à Athènes par tous les représentants des cités tenues pour authentiquement grecques. On sait qu'Adrien, en même temps qu'il fondait le Panhellénion, dans l'hiver 131-132, avait le projet d'instituer un concours athlétique et musical qui aurait lieu tous les quatre ans et s'appellerait précisément les Panhellénia. Une inscription d'Asie mineure nous a appris naguère que la première célébration de ce concours, placée au même rang que ceux d'Olympie et de Delphes, n'eut lieu qu'en 137. Donc, forcément en l'absence du prince fondateur qui ne pouvait plus alors songer à faire le voyage d'Athènes. Mais un nouveau dossier épigraphique apparu il y a moins de 10 ans dans la ville d'Alexandrie de Troade, d'une richesse extraordinaire sur la vie culturelle du monde gréco-romain, nous enseigne qu'en 134, alors que faisait rage le Bellum Judaicum, obligeant l'empereur lui-même à quitter l'Italie pour l'Orient, Adrien se préoccupait de mettre au point, en concertation avec les grandes associations d'artistes et d'athlètes, une sorte de calendrier agonistique où la nouvelle fête viendrait s'insérer à la fin d'un cycle de 4 ans, en 137, avant le concours d'Olympie. Cela nous fournit très vraisemblablement l'explication même de l'envoi par l'Inarichéen au premier printemps de 138, d'une ambassade auprès de l'empereur, en dépit de sa grave maladie ou à cause d'elle. Car cette petite cité pourrait bien avoir eu connu des difficultés au moment des Panhellénies, n'ayant plus les moyens d'y faire bonne figure, étant dès lors menacée de devoir renoncer à son autonomie municipale au profit d'un État voisin un peu plus prospère. Voilà pourquoi Adrien, faisant écho aux requérants des eux-mêmes, tient si fort à rassurer les Narichéens. « Personne, je pense, dit-il, ne pourra contester que vous êtes en possession d'une cité et que vous en avez les droits, Pauline Humas et Cain, Cai Poleos ta Dicaia. » Les structures de l'État Narichéen sont celles d'une cité. Il y a chez vous, poursuit-il, un conseil des magistrats, des prêtres et des tribus de type grec. On a pu s'étonner de l'absence dans cette énumération de l'Assemblée du peuple et y voir un trait oligarchique. En réalité, cela s'explique fort bien par le fait qu'Adrien n'entend mentionner, comme il le dit, que les organes de gouvernement, archai, or depuis Aristote au moins, on sait que le conseil est une arché, tandis que l'Ecclésia ne l'est point. De même, il a paru surprenant que l'existence de tribus grecques, Fulai Hellenicae, soit mise au nombre des traits constitutifs d'une cité, puisqu'une telle subdivision, inconnue du reste jusqu'ici en Locride, semble dépourvue de pertinence pour une cité aussi modeste. Mais il faut faire la part belle à notre ignorance, car même au sein d'un microcosme politique, comme c'était le cas à Narica, des tribus et d'autres subdivisions civiques devaient toujours exister. Ce qui est sûr, c'est qu'Adrien, comme déjà les rois hellénistiques, fondateurs de villes, voyait dans la présence d'un tel système le trait le plus significatif d'une polis helléniste. Rien ne le montre mieux que la fondation, une demi-douzaine d'années plus tôt seulement, de la ville d'Antinoopolis sur le Nil, doté d'une structure civique qui, on l'avait vu, porte la marque en tous ses détails de la volonté d'Adrien d'en faire une authentique cité grecque en plein cœur de l'Égypte. Restent les deux arguments les plus singuliers du plaidoyer en faveur de l'autonomie politique, ou disons mieux ici, de l'identité culturelle des gens de Narica. Le fait, d'une part, dit l'inscription, que certains poètes, tant romains que grecs, parmi les plus fameux, fassent mention de vous comme narikéens, os narikéion, et d'autre part, qu'au nombre des héros, ils en citent quelques-uns issus de votre cité, ectes poléos tesumeteras ormetentas. Réflexion dont on ne saurait assez souligner l'originalité et qu'il convient d'attribuer à Adrien lui-même en raison de la référence faite aux poètes latins et pas seulement grecs. Ne valait-il pas la peine, dès lors, de faire connaître un peu plus largement, au-delà du cercle étroit des épigraphistes, la lettre d'Adrien aux gens de Narica? Une occasion parut se présenter en 2008, quand fut montée au British Museum la belle exposition « Adrien, Empire and Conflict » qui, comme le laisse entendre le titre, montrait un Adrien cultivé, certes, mais surtout soldat en Bretagne, en Judée, ailleurs, et sans oublier, bien sûr, l'amant passionné avec force portrait d'Antinous. Mais pas ou très peu d'inscriptions grecques. Alors, quelle forme pour Adrien une part essentielle de la documentation. Chez les journalistes qui en rendirent compte, ce fut la surenchère habituelle. Je ne reproduis ici que l'article paru dans Le Monde du 29 juillet 2008, Adrien, gay, humaniste et sanguinaire. Aucun des trois qualificatifs ne paraît approprié, pas même celui d'humaniste, si galvaudé aujourd'hui. Dans une lettre à l'auteur, lui suggérer de compléter sa présentation en faisant découvrir à ses lecteurs l'inscription du Louvre, alors encore parfaitement inconnue des commissaires du British Museum. Il n'y eut pas de réponse de la rédaction de ce journal, pas plus d'ailleurs que de celle du Figaro. Un peu attristé, je le confesse, j'ai été tenté d'écrire aux autorités du Louvre pour les inviter à faire en sorte que cette inscription put être restituée aux Narikéens, puisqu'elle n'était apparemment pas de nature à intéresser le public parisien. N'y a-t-il pas en Locride, à Atalanti même, un joli petit musée archéologique qui accueillerait avec gratitude, je suppose, cette stèle miraculée et fort bien restaurée? Rassurez-vous, je n'en ai rien fait jusqu'ici. Mais je continue à me demander où est la bonne solution pour un document qui a une telle valeur patrimoniale. En tout cas, si la lettre d'Adrien devait un jour quitter Paris, que ce soit pour Atalanti, pour Oponte, la cité aux belles lois, pour la patrie d'Ajax, fils d'Oïlée, plutôt que pour la lointaine Abu Dhabi. Un dernier mot, il ne saurait y avoir de doute que Marguerite Yourcenar, si elle avait pu connaître cette lettre si personnel d'Adrien, en aurait tiré parti, comme elle l'a fait pour toutes, absolument toutes, les informations à sa disposition. Elle a senti de fait qu'il lui manquait quelque chose pour conclure sur une note à la fois positive et mélancolique. Alors elle a eu recours à un subterfuge en insérant in fine, pour ainsi dire, de larges extraits du rapport qu'avait envoyé au prince, mais en l'an 131 déjà, l'excellent Arien de Nicomédie, gouverneur de Cappadoce, vainqueur plus tard des Alains aux confins de sa province. Car ce texte, parvenu jusqu'à nous sous le titre de « Périple du Ponte Xin », autorisait Adrien à jeter comme un dernier regard sur l'Empire de Rome. Et c'était pour lui une ultime occasion d'évoquer les héros d'Homère, puisque dans une île de la mer Noire, appelée l'île d'Achille, le navigateur avait vu le sanctuaire de ce héros avec, je cite, « des ex-voto dédiés à Achille, tantôt à son ami, car, bien entendu, ceux qui aiment Achille chérissent et vénèrent la mémoire de Patrocle, c'est-à-dire, en clair, de l'inoubliable Antinoüs. Arien m'offre un don nécessaire pour mourir en paix, songe alors le vieil empereur en déposant le voluminé rapport. Rééditant son livre aujourd'hui, Marguerite Yourcenar eut donc peut-être ajouté le codicille que voici. On me pardonnera ce médiocre pastiche. Car elle aurait pris conscience que Patrocle, lui aussi, était un Locrien d'Oponte. Mon cher Marc, Adrien, en effet, s'adresse au futur Marc Aurèle. J'ai omis de te dire qu'avant la consultation chez mon médecin Hermogène, une ambassade bien extraordinaire est venue, il y a 2 jours, me trouver ici. Figure-toi que ces gens, des Grecs d'une assez obscure cité, Narica, imploraient mon aide parce que, disaient-ils, leur autonomie était menacée et que leur ville même risquait de disparaître. Ils prétendent qu'Ajax est leur compatriote. Étrange argument pour plaider leur cause auprès d'un descendant d'aîné. J'ai tenu à vérifier la chose. En relisant leurs poètes et aussi les nôtres, ce qui m'a causé une joie indicible, me faisant presque oublier ma présente douleur. Il ne faut pas laisser s'évanouir cet héritage qui nous est commun à eux et à nous, même si leurs pères étaient les adversaires des nôtres. Aussi ai-je répondu à leur appel. Ils auront de quoi fêter à Athènes les prochaines panhellénies et celles qui suivront encore. Cela ne garantit point leur avenir à long terme, pas plus du reste que celui de notre immense empire. Mais pouvait-on faire davantage ? Je vous remercie.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours de Denis Knopfler, consacré à l'empereur Adrien. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.